Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Restez avec nous, Europe Soir revient dans quelques instants. Est-ce que éteindre son sèche-linge, ça marche pour le climat? Est-ce que interdire les jets privés, c'est bon pour la sobriété énergétique? Nous en parlons dans quelques instants sur Europe 1. Laissez-moi vous présenter mes invités. Raphaël Rémy Leleu, porte-parole Île-de-France d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes également avec un spécialiste de l'aéronautique, Xavier Titelman. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Fabien Bougelet, vous êtes expert en politique énergétique, auteur de Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Bonsoir.
Bonsoir Raphaël Delvolvé.
Alors, le gouvernement s'apprête à dévoiler un plan de sobriété énergétique à l'approche d'un hiver qui s'annonce compliqué sur fond de guerre en Ukraine et de pénurie tant redoutée de gaz. Et un débat émerge ces derniers jours. Il a été lancé par Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts, NUP. Il suggère de bannir l'utilisation des jets privés. Ça a été repris par un membre du gouvernement, le ministre des Transports Clément Beaune, qui lui appelle à réguler l'utilisation des jets privés. Xavier Titelman, ça pollue beaucoup un jet privé?
Mais dans l'absolu, ça dépend de combien de personnes vont l'utiliser. Si on prend un petit un Beechcraft King Air, par exemple, on va être autour de 70 litres au 100 km. Si vous êtes 10 passagers à bord, forcément, ça fait 7 litres au 100. Si vous avez une seule personne à bord, ça va être 70 litres au 100. Le problème, du coup, c'est le nombre de personnes et ce n'est pas le fait d'avoir des jets privés. Donc, il faut faire une différence entre, par exemple, une entreprise qui va affréter un avion parce que c'est ce qu'il y a de moins cher, de plus simple, qui fait gagner du temps et finalement qui a une consommation qui sera la même que si on prenait chacun sa voiture, ou alors quelqu'un de très riche qui va juste, pour le loisir, faire un voyage tout seul dans son Airbus A320. C'est pas du tout la même chose et je pense qu'on mélange un petit peu toutes les activités.
Raphaël Rémy Leleu, il y a une dimension surtout symbolique dans le bannissement du jet privé, non ?
Il y a du symbole, bien sûr, il y a de la bataille culturelle. Cette sobriété dont on a besoin aujourd'hui et dont j'ai l'impression qu'on a réussi à convaincre un certain nombre de personnes, y compris au gouvernement, à l'aune d'une crise extrêmement grave et de la guerre en Ukraine. Mais désormais, on parle de sobriété énergétique. Ce serait totalement aberrant qu'on continue à dire aux Françaises et aux Français tous les soirs, surtout, coupez votre boîtier de Wi-Fi et qu'à côté de ça, on laisse en vol, tranquillement, des jets privés dont on peut essayer de faire des calculs sur la consommation au 100, mais dont on sait aussi que les émissions carbone peuvent être extrêmement importantes, jusqu'à 2 tonnes par heure, alors qu'on doit essayer d'aboutir à 2 tonnes par an et par Français ou Française. On est très très loin du compte là.
Fabien Bougelet, c'est quoi le plus efficace Bouglé pour la planète? Bouglet, pardon, oui, excusez-moi, Bouglé. Je suis désolé, pardon, Fabien Bouglet.
Ah bah, en tout cas,
c'est quoi le plus efficace, c'est de couper son Wi-Fi ou d'interdire les jets privés?
Moi, je voudrais Europe Écologie Les Verts, c'est le parti de l'interdiction. Il y a encore quelques mois, ils voulaient interdire le Tour de France, le Tour de France.
On ne l'a jamais dit,
vous êtes
la patrouille de France, les sapins de Noël, et maintenant, donc ça c'est pour le peuple, et maintenant on s'attaque aux riches, les milliardaires, donc c'est les nouveaux boucs émissaires d'un parti politique qui n'a rien à dire sur les questions énergétiques et qui, par exemple, ne dénonce pas le charbon qui est utilisé en complément des éoliennes en Allemagne et qui fait que l'Allemagne, qui sont vos partenaires politiques, bah, c'est d'abord dénoncer en Europe les émissions de gaz à effet de serre de l'Allemagne qui pollue 10 fois plus que la France. Donc, si vous voulez, il est évident que on ne peut aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui pollue l'Union européenne et la France, avec 50 grammes de CO2 par kilowattheure produit, est très très vertueuse. Donc on est en train de faire une mesurette d'interdiction des jets privés de milliardaires pour montrer qu'en réalité Europe Écologie Les Verts n'a rien à dire sur la question énergétique et surtout le parti politique héritier de 20 ans de gabegie où on a dénucléarisé la France, etc. Je crois que c'est ça qui faut le dire parce que en réalité, que dit Europe Écologie Les Verts? Il faut arrêter de consommer de l'électricité. C'est-à-dire, il faut rationner l'électricité.
Vous mélangez
les mensonges,
les approximations, les choses absolument grossières quand on vous demande comment lutter le plus efficacement possible contre le dérèglement climatique et le gaspillage d'énergie. Vous n'avez rien d'autre à faire.
Sinon, on n'entend plus rien. Rappelle Rémy Leleu.
On vous demande comment lutter le plus efficacement possible contre le dérèglement climatique et contre le gaspillage énergétique. Et vous n'avez rien d'autre à répondre qu'à taper sur les écologistes. Donc là, pour le coup, en termes de politique des boucs émissaires, on est très, très bien.
Excusez-moi,
ce que vous dites sur le charbon et l'Allemagne, je vous invite à lire notamment les travaux de notre commission énergie qui fait un travail formidable à la fois de plaidoyer et de formation et qui parle régulièrement de ce qui se passe dans les politiques européennes, notamment en Allemagne. on en parle, contrairement à ce que vous essayez d'affirmer. Et en réalité, ce qui me choque le plus dans votre discours, je crois, c'est que c'est même pas la défense de ces pauvres petits milliardaires qui seraient incapables de se défendre sans vous, mais c'est cette idée qu'on pourrait encore aujourd'hui se dire ben, « moi je ne vais rien faire parce que finalement mon voisin pollue plus que moi ou pollue différemment ». On n'a plus le temps d'attendre, on ne peut pas continuer à regarder la catastrophe arriver et se dire qu'on va laisser faire.
Justement, c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai écrit dans mon livre « Nucléaire, les vérités cachées », le nucléaire n'émet que 4 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Vous n'avez eu de cesse pendant 20 ans de détruire le nucléaire français.
Alors attendez, on va évoquer les solutions à long terme. Je voudrais juste qu'on recentre le débat, la discussion si possible, sur l'aéronautique. On a un spécialiste avec nous, Xavier Titelman. La France est le premier marché d'Europe en termes de mouvement de jets. Alors, interdire les jets privés, comme le suggère Julien Bayou, ça a quel impact, quelles conséquences sur le secteur en termes d'emploi, d'industrie ?
Alors, sur le secteur, évidemment, aéronautique, c'est très important, puisqu'on a déjà un très grand fabricant aéronautique en France qui s'appelle Dassault, qui exporte énormément d'avions. On a le plus grand pays d'Europe, donc c'est logique qu'on ait aussi celui qui a le plus de survols. On est le pays le plus survolé d'Europe parce qu'on est au centre de l'Europe. Donc, de toute façon, en termes de poids économique, c'est absolument fondamental pour le secteur aérien. Mais ce qui est important, c'est que le jet privé n'est pas qu'un outil de très riches. Et encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, il y a des entreprises qui s'en occupent parce que moi, j'ai des exemples concrets dans lesquels les gens veulent aller de Bordeaux jusqu'à Tulle et c'est leur travail et ils peuvent pas se permettre de faire 2 jours de train ou faire 3 escales pour pouvoir faire ce type de trajet-là. Tout simplement parce que ça n'existe pas. Donc, ça a un intérêt pour la connectivité locale, ça a un intérêt économique pour des entreprises qui, si jamais elles ne pouvaient plus avoir accès à ces types de vols-là, finalement, elles vont délocaliser, elles vont se retrouver à Paris parce que c'est plus efficace que de rester dans leur province. Et on a aussi d'autres solutions que l'interdiction. On a la possibilité, par exemple, d'utiliser du carburant alternatif durable qui a un bilan carbone qui est 80% inférieur au fait du carburant classique, simplement. Il coûte tellement cher que personne n'utilise. Donc il faut forcer, s'ils ont de l'argent et qu'ils peuvent se payer des jets privés, qu'on les force à utiliser ces vols-là. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de vols qui, encore une fois, ont le terme générique jet privé, mais ce sont des vols sanitaires. On a des vols de rapatriement sanitaire, on a également le transport d'organes qui se fait par avion privé. Et si vous n'avez plus d'avion privé, vous n'aurez également plus ces vols sanitaires. Et ça, c'est vraiment important aussi d'avoir à l'esprit. On ne peut pas tout arrêter d'un coup.
Raphaël Rémy Leleux, si un jour vous deveniez, je ne sais pas moi, présidente de la République,
que vous deviez
venir très, très, très vite, je ne sais pas, en Russie pour conclure un accord de paix sur la guerre en Ukraine, vous n'allez pas refuser le jet privé quand même.
Mais de toute manière, on va être très clair, il n'a jamais été question, par exemple, d'interdire les vols sanitaires. On est en train de parler, et ce serait intéressant d'avoir la répartition exacte de la flotte, parce qu'en effet, jet privé, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a à la fois des vols commerciaux et des vols privés de loisirs. Mais en fait, ce qui me choque, en tout cas en France aujourd'hui, c'est que 50% des vols qui sont faits en jet privé sont sur une distance de moins de 500 km. 50% des vols en jet privé, une distance de moins de 500 km. Donc là, on devrait pouvoir favoriser l'alternative. Et vous le disiez très bien, la France est le plus grand pays d'Europe. Eh bien, allons-y, osons penser un aménagement, une interconnectivité entre les territoires basée, par exemple, sur le train. C'est extrêmement choquant de voir ces dernières années, je vous invite à consulter, la carte des petites gares et des lignes ferroviaires depuis 40 ans et qu'on amenuise le nombre de connexions, le nombre de trains qui circulent, etc., etc. Il faut penser l'alternative et la plupart des vols en jet privé ne sont pas des vols ni urgents ni obligatoires.
Alors, moi, Fabien
Bouglé. À vous.
Oui, je voudrais juste réagir parce que, en fait, Europe Écologie Les Verts, c'est juste le parti de l'interdiction. On veut interdire,
vous
interdire.
Vous répétez, monsieur.
Alors évidemment, vous allez peut-être me laisser parler. Alors évidemment, quand le Premier ministre Jean Castex va voter pour mettre son bulletin de vote et utilise un jet privé, évidemment que c'est choquant et évidemment qu'on doit empêcher ce type de voyage. En revanche, quand on s'attaque en permanence aux milliardaires, qui sont aussi le pool de l'économie et qui permettent le développement économique, ils ont besoin, dans le cadre de leur activité, de faire des déplacements extrêmement rapides. Et ça pèse sur des milliers, voire des centaines de milliers d'emplois, pour faire du business, des deals. Et que ça vous pèse ou non, c'est une nécessité pour notre pays d'avoir des personnes qui font ça pour nos emplois, mais aussi pour les gens du peuple qui en dépendent. Donc, si vous voulez, c'est toujours caricatural. Le problème, c'est que vous êtes dans la caricature en permanence, alors que nous avons besoin et que cette sobriété énergétique ne va pas passer par l'interdiction de faire des voyages d'affaires ou des voyages de touristes qui peuvent aussi créer des emplois dans tout ce qui est associé à ce milieu touristique. Moi, vous êtes toujours dans l'interdiction. Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes des héritiers de mai 68, il est interdit d'interdire, mais alors là, c'est toujours l'interdiction.
Xavier Tittleman, est-ce que c'est une idée reçue de tout de suite liée avion, à industrie aéronautique, à méga pollution, méga émission de CO2?
Alors, le bilan carbone d'un trajet égal en voiture ou en avion aujourd'hui, il est très faible. Si vous regardez les avions qui décollent de France, le passager en moyenne, il consomme 3,3 litres au 100. Si vous avez des avions très remplis, moyen courrier, si vous allez aujourd'hui en Grèce, vous êtes en dessous de 2 litres au 100 pour les avions très remplis. Donc, oui, ça pollue parce que ça permet d'aller loin. Maintenant, personnellement, il y a un quart des vols en Europe qui sont faits par des personnes qui n'ont pas le choix parce qu'ils vont une fois par an voir leur famille en Europe de l'Est, dans le Maghreb. Un quart des vols, c'est des gens qui ne peuvent pas le remplacer. Un quart des vols sont des vols professionnels. Donc, vous avez la moitié des vols qui se font, qui sont des vols de loisirs. On peut considérer que les gens n'ont plus le droit de faire du loisir, mais il y a aussi une partie de la classe, et notamment des classes les moins aisées, qui peuvent se permettre d'aller en vacances parce que ça coûte beaucoup moins cher d'aller en Tunisie que de prendre le train pour aller sur la Méditerranée, par exemple. Donc croire que c'est quelque chose pour les riches, par les riches, qui consomment, qui émet énormément de CO2, si vous consommez un kilo de steak sud-américain, c'est à peu près la même émission de CO2 que si vous faites un aller-retour pour la Grèce, par exemple. Donc il faut aussi avoir ces ratios. Tout à l'heure, on parlait de quelle était la meilleure solution. Il faut tout mettre en œuvre. Il y a énormément de choses à faire. Il y a une étude internationale, méta-analyse, qui montre que le secteur aérien, c'est le 39e secteur dans lequel on peut faire le plus de réduction des émissions de CO2. Avant ça, vous avez la gestion des réfrigérants, vous avez même la culture du bambou, et l'aviation arrive en 39e. Donc oui, il faut faire les efforts sur l'aérien, mais il faut aussi faire les efforts sur les 39 autres secteurs qui sont plus polluants et dans lesquels il y a le plus de leviers à réaliser.
Raphaël Rémy-Leleu, l'avion, en fait, c'est pas le plus polluant.
Bien sûr, il faut faire des efforts sur tous les secteurs. Et là où on essaye d'apporter un peu de bon sens dans le débat public, c'est le fait d'avoir notamment un État stratège, un État qui planifie la transition écologique, à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également l'adaptation de nos sociétés. Je suis déjà ravie de voir que tout le monde est converti au droit aux vacances. Mais ce qui pose bien problème, c'est l'idée que ça coûterait plus cher de partir en vacances en France en train et de développer un tourisme local, durable, de proximité, plutôt que d'aller à l'étranger en avion. C'est une aberration. Donc il faut revoir le modèle économique, revoir la fiscalité pour faire en sorte que ces droits aux vacances notamment, soient accessibles à toutes et à tous. Et pour ça, on va avoir besoin également d'un petit peu de justice sociale. Donc l'utilisation de l'argent, où le trouver, où le dépenser, c'est éminemment politique. Et je crois que la proposition d'interdire les jets privés permet au moins de mettre tout cela en débat.
Raphaël Rémy-Leleu, vous élargissez le débat et c'est tant mieux parce qu'on va l'élargir après une courte pause avec Xavier Tittleman et Fabien Bouglé. On va se concentrer sur qu'est-ce qu'un plan efficace de sobriété énergétique. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur le plateau d'Europe 1, nous sommes avec Fabien Bouglé, expert en politique énergétique, auteur de Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher, Xavier Tittleman, spécialiste de l'aéronautique, et Raphaël Rémy-Leleu, porte-parole Île-de-France d'Europe Écologie Les Verts, et c'est vers elle que je me tourne, parce que vous êtes active dans le paysage politique français, et vous vous attendez quoi, vous, ce plan de sobriété énergétique prochainement dévoilé par le gouvernement? Il paraît qu'il y a des affiches, vous savez, une campagne de communication qui est déjà dans les tuyaux. Hein, ça a un petit côté vintage, années 70.
Et un numéro vert, peut-être non, mais on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que cela. On est quand même...
Vous attendez à quoi, déjà?
Alors, avec ce gouvernement, je ne sais jamais vraiment à quoi m'attendre.
Là, mais par exemple, avant la fin de l'été, il y aura un décret pour interdire la publicité lumineuse et faire fermer les portes quand il y a la clim ou le chauffage allumé.
Mais en fait, là, c'est quand même la moindre des choses. J'ai l'impression qu'on a enfin un débat public qui accepte d'employer le mot de sobriété, mais on est à peine en train d'effleurer les politiques nécessaires pour en terminer avec le gaspillage, et le gaspillage le plus flagrant. Donc, en effet, interdire la pollution lumineuse, la publicité à outrance. On a également les mesures européennes qui vont, je l'espère, très vite rentrer en œuvre, être mises en œuvre, notamment sur la taxation du kérosène. Et tout ça doit être mis en place de manière extrêmement cohérente, y compris avec des mesures contraignantes et qui prennent en compte un élément de justice sociale. On voit la taxation énergétique aujourd'hui pèse plus, l'effort pèse plus sur les 20% des ménages les plus modestes que sur les 20% des ménages les plus aisés pour qui finalement la taxation énergétique ne représente que 1% des revenus. Donc il va falloir réadapter tout ça.
Alors, Xavier Tittleman, vous êtes spécialisé dans le domaine de l'aérien, de l'aéronautique. Je vais vous poser quelques questions après. Juste avant, Fabien Bouglé, vous êtes un ardent défenseur du nucléaire. Cette crise énergétique n'est-elle pas une opportunité pour vous pour accentuer la politique nucléaire et surtout aller vers des projets innovants en termes d'énergie non polluante ?
Tout à fait. Il faut rappeler que le nucléaire est totalement décarboné, hein, 4 grammes de CO2 par kilowattheure produit à comparer avec 1000 grammes pour le charbon. Mais je voudrais rappeler que la France, il y a encore à peine un an, était exportateur d'électricité. Hein, plus de 10% de son électricité était exportée. Et que c'est en raison d'arrêts plus ou moins surprenants de la moitié de nos centrales nucléaires aujourd'hui qui sont à l'arrêt en France, que nous avons justement cette pénurie d'électricité et que nous sommes obligés de d'importer de l'électricité au charbon d'Allemagne. Alors qu'en fait, en réalité, il faut relancer nos centrales nucléaires qui sont actuellement à l'arrêt et nous n'aurons aucun problème d'approvisionnement électrique. Par contre, pour le gaz, évidemment, nous avons 16% de notre gaz qui provient de Russie, qui provenait de Russie avant la guerre. Donc là, évidemment, on va manquer de gaz et actuellement, il y a des opérations pour augmenter nos approvisionnements des pays qui nous approvisionnaient déjà préalablement. Donc je dirais, avant de parler de rationnement d'électricité et d'envisager un pass énergie comme on vient d'entendre la personne d'Europe Écologie Les Verts, il faut regarder ce qu'on est capable d'assurer. Alors j'entends le rationnement de l'électricité la nuit, mais la nuit on a un bas de consommation, donc ça ne change rien. En réalité, les besoins d'électricité qu'on va avoir, ça va être au moment des pics de consommation, c'est-à-dire l'hiver. Entre janvier et mars, c'est le moment où les éoliennes ne tournent pas, d'ailleurs en Europe, et qu'on est obligé d'avoir des ressources complémentaires. Et en France, évidemment, c'est le moment où on a été obligé ces dernières années d'ouvrir des centrales au charbon. Voilà, en réalité, cette politique de rationnement d'électricité, elle est la conséquence de 10 ans d'une politique lamentable en matière énergétique, dont sont responsables le Premier ministre et le Président de la République. Il faut bien que nos concitoyens comprennent que lorsqu'on parle de sobriété énergétique, c'est la conséquence lamentable de 10 ans de non-prise en compte des problèmes énergétiques du pays. Et on arrive à cette politique de rationnement digne des États du tiers-monde. Ça fait 40 ans qu'on avait de l'électricité et de l'énergie pour tous nos concitoyens de manière égalitaire. Et aujourd'hui, on parle de passes qui vont discriminer les riches, les pauvres, etc. C'est scandaleux et moi, je suis vraiment outré d'entendre le discours de la représentante d'Europe Écologie Les Verts sur ce thème.
Elle s'appelle Raphaël Rémy-Leleu et elle vous répond.
Je suis un peu gênée pour vous répondre parce que monsieur, vous affabulez mon discours. En fait, ça n'est pas ce que j'ai dit. Et le fait que vous soyez choqué par une discrimination, notamment de coûts entre les plus riches et les plus pauvres, ça s'appelle le principe de redistribution. C'est la base, pas uniquement de notre système fiscal, mais même de notre fonctionnement républicain. Donc si vous avez un problème avec ça, ça va être en effet très, très gênant de débattre et de discuter avec vous. Ensuite, sur solution à apporter pour la production énergétique et l'hiver qu'on risque d'affronter. Je pense qu'on passe un peu vite sur la crise ukrainienne qui, bien entendu, a un impact majeur sur les politiques énergétiques. Et encore une fois, là, vous semblez vous résoudre à dire que le problème, ce serait qu'on n'a pas assez développé ou en tout cas, on a empêché le développement du nucléaire, alors que la politique nucléaire en France est un désastre industriel, que ça n'est pas une énergie propre, même si c'est une énergie qui, en effet, émet faiblement du carbone, et que pour le coup, si on avait développé bien plus massivement et bien plus rapidement les énergies renouvelables, on n'en serait pas à ça aujourd'hui.
Pardonnez-moi, Raphaël Rémy-Leleu, qu'est-ce que c'est qu'une énergie impropre et qui émet en même temps peu de CO2 ?
Mais par exemple, les déchets ? Par exemple, l'utilisation de l'eau. Est-ce que vous me permettez de vous faire un tout petit peu de lecture ?
Mais je vous en prie.
La définition de la sobriété par le GIEC. La sobriété, c'est l'ensemble des mesures et des pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter une demande en énergie, matériaux, usage des terres et eau, tout en assurant le bien-être de toutes et de tous dans le respect des limites planétaires. Le nucléaire ne permet pas cela. Donc on ne peut pas seulement regarder toutes les politiques énergétiques prisme de la seule émission de gaz à effet de serre.
Donc il faut revoir tous nos comportements. Il faut aller vers une révolution écologique, tandis que Fabien Bouglé défend lui plutôt l'innovation. J'aimerais qu'on parle de l'aérien, puisqu'on a un spécialiste avec nous, Xavier Tittelmann. Cette crise énergétique n'est-elle pas l'occasion de sortir de l'hydrogène comme on sort du diesel pour les véhicules auto?
Alors, dans tous les cas, c'est l'opportunité d'accélérer la transition de l'aviation. Vous savez que l'aviation avait des enjeux qui étaient très optimistes déjà, c'est-à-dire qu'il y avait un objectif d'atteindre moins 50% d'émissions de CO2 malgré la croissance attendue d'ici 2050. Et par exemple, l'Europe vise maintenant un net zéro CO2 en 2050. Et pour ça, évidemment, il y a des avions de nouvelle génération. D'ailleurs, les jets privés seront les premiers appareils qui pourront être 100% électriques. Et vous avez des programmes en France comme le Cassio de Volta Aero qui fera des vols de 500 km qui seront quasiment en 100% électriques. Et vous avez les tout premiers petits avions qui sont pour l'instant des avions d'aéroclub qui le permettent. Donc on parle de zéro CO2. Le problème, c'est est-ce qu'on interdit tous les jets privés ou est-ce qu'on interdit juste les jets privés polluants? Et quand on avait voulu interdire les vols vers Bordeaux, par exemple, il y avait une proposition d'éventuellement permettre, quand les avions électriques existeront, de recommencer à faire des vols Paris-Bordeaux en 100% électrique. Eh bien, on avait eu également des politiciens qui s'étaient levés contre l'idée d'avoir des vols qui étaient pourtant zéro carbone. Donc on a cette nouvelle génération d'appareils qui va arriver. Ça arrive doucement, ça commence par les petits avions et petit à petit ça va augmenter en taille. Et à partir de 2035, on aurait des avions qui seront à hydrogène, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de bilan carbone, ce serait moins 80% en termes de réchauffement, parce qu'il y a quand même les traînées de condensation qui sont encore existantes. Et la vraie question, c'est, un, est-ce qu'on saura produire de l'électricité qui est non carbonée? Et est-ce qu'on pourra nous fournir de l'hydrogène qui serait non carboné? Il y a des possibilités pour le faire. Aujourd'hui, les investissements, évidemment, ils ne sont pas à la hauteur de ces enjeux, pas uniquement pour l'aérien, mais pour la totalité des secteurs.
Fabien Bouglé, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'hydrogène également.
Alors, tout à fait, l'hydrogène, il faut pas, il faut vraiment le souligner.
L'hydrogène, c'est pas encore tout à fait au point. Hein.
C'est pas au point, mais c'est réalisé par hydrolyse. Et comme il y a une énorme déperdition entre la production d'électricité et d'hydrogène, il faut une structure d'électricité qui ait un facteur de charge très important. Le seul cas, c'est le nucléaire. Parce que si vous faites de l'hydrogène avec une centrale au charbon, votre hydrogène, il est brun. Si vous faites de l'hydrogène avec du gaz, il est brun. Donc, en réalité, il faut, pour faire un hydrogène vert, il faut absolument une unité de production électrique très importante, qui soit massive, puissante, et celle, le nucléaire, permet d'agir en ce sens. Je voudrais juste revenir sur un point important, c'est la notion de discrimination électrique, pour répondre à mon interlocutrice de tout à l'heure. Le gaullisme, associé au Parti communiste, issu du Front populaire, a voulu que la France permette à ses citoyens, quelles que soient leurs conditions sociales, d'avoir un accès à l'électricité pour tous de manière égalitaire, quel que soit le rang social. Et moi, je m'attriste de voir que ces valeurs de la République qui sont issues du gaullo-communisme soient bafouées par ce que vous dites, à savoir la création d'une discrimination entre les riches et les pauvres dans l'accès à l'électricité et l'énergie. Moi, je m'insurge et je combattrai toujours dans cette logique et contre une idée de discrimination. Je le dis parce que je suis extrêmement choqué de ce que je viens d'entendre sur l'accès à l'énergie, où il faut taxer les riches et créer une discrimination financière entre les uns et les autres dans l'accès à l'énergie. Ça n'est pas possible dans notre pays. Nous avons égalité dans le frontispice de la République. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le rappeler.
Et puis Raphaël Rémy-Leleu, c'est vrai que dans les années 70, tout le monde s'y était mis. À l'époque, c'était du pétrole qui manquait.
Et d'ailleurs, ça super bien marché le modèle de
d'hyper-consommation,
d'hyper-production, de pollution, de rejet massif de déchets. Super modèle, hein, ça a bien marché. D'ailleurs, on n'est pas du tout au bord de la catastrophe à cause de tout ça. Encore une fois, vraiment, vous méprenez absolument sur le principe de discrimination versus le principe de redistribution. Donc ça rend tout débat assez complexe. En 2021, il y a un sondage de l'IFOP qui a montré que 87% des Françaises et des Français étaient très favorables au développement des énergies renouvelables. Finalement, les politiques industrielles et les politiques énergétiques des dernières décennies n'ont pas beaucoup marché, mais ont permis de subventionner durant des décennies, notamment l'énergie nucléaire. Donc il faut un changement majeur, il faut faire pivot et avoir un état stratège qui prépare la transition, qui prépare l'adaptation, à la fois sur notre niveau de consommation, mais aussi nos modalités de production.
Mais Raphaël Rémy-Leleu, il va falloir imposer les éoliennes, pour prendre cet exemple aux Français, parce que tout le monde n'en veut pas. Vous êtes d'accord avec ça quand même?
tout le monde n'en veut pas. 87% des Françaises et des Français, je viens de vous le dire, sont pour le développement des énergies renouvelables.
Après, j'ai parlé des éoliennes, moi. Je n'ai pas parlé des énergies renouvelables.
Mais
si on leur parle de l'hydrogène, des petits SMR nucléaires, oui, ils vont vous dire oui.
Ça en fait partie. Ensuite, notamment le débat sur les éoliennes, on a eu beaucoup cette idée que les éoliennes, par exemple, allaient nuire au paysage ou que cette idée que finalement, on n'a pas envie d'une éolienne au bout de son jardin. Moi, j'ai grandi avec, au bout de mon jardin, la vue sur une centrale. C'est pas beaucoup plus sympa. Donc, à un moment, il va falloir faire des choix de société.
Vous aurez le mot de la fin. Merci Raphaël Rémy-Leleu, porte-parole Île-de-France d'Europe Écologie Les Verts. Merci Xavier Titelman de nous avoir éclairé. Vous êtes spécialiste de l'aéronautique. Merci Fabien Bouglet, expert en politique énergétique, auteur de Nucléaire, les vérités cachées. C'est aux éditions du Rocher. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition d'Europe Soir. Merci de l'avoir suivi. Solène Godin était à la production, Christophe Charles à la rédaction en chef. On se retrouve demain pour Europe Midi, même endroit, même heure. À demain sur Europe 1.